Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été enregistrée le vendredi 20 décembre. Elle a été réalisée par Benjamin Hu, préparée par Hélène Lefrançois, Rosalie Suc, Bertie Bourdon et Margot Leridon. À la technique aujourd'hui, Adèle Caglar. C'est le troisième temps de notre série consacrée aux principaux disrupteurs de l'année 2019. Lundi, nous avons parlé de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Mardi, nous nous sommes intéressés au président turc Recep Tayyip Erdogan. En ce jour de Noël, cap sur le trublion de la politique américaine, Donald Trump.
Je n'accuse pas les autres pays. Quand j'étais en Chine, je disais au président Xi, et j'ai beaucoup de respect pour le président Xi, je lui disais, je ne vous accuse pas. Si vous pouvez faire 500 milliards de dollars sur notre dos, comment pourrais-je le blâmer? Ces accords ont été acceptés par certains, et ils devraient avoir honte de ce qu'ils ont laissé passer. Les Kurdes se battent pour leur terre. Il faut que vous compreniez. Comme quelqu'un l'a écrit dans un très bon article aujourd'hui, ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés, par exemple, en Normandie. Ils mentionnent des noms de batailles auxquelles ils ont participé, mais ils sont là pour nous aider avec leur terre. C'est une déclaration très difficile. C'est très insultant pour les 28 pays membres de l'OTAN. Et ce n'est pas possible de faire des déclarations comme celle-là sur l'OTAN. C'est très irrespectueux.
Nous venons d'écouter un pot pourri de formules trumpiennes de 2019. Comme les précédentes, cette année a été particulièrement disruptive quand on la lit depuis les États-Unis. Après s'être retiré de l'accord international sur le nucléaire en 2018, Donald Trump a mené une stratégie de pression maximale contre l'Iran en imposant de nouvelles sanctions. Il a continué à remettre en cause les liens qui unissent l'Amérique à ses alliés. Il s'est abstenu de réagir quand les installations pétrolières d'Arabie Saoudite ont été attaquées à l'automne. Il a trahi les partenaires kurdes de la coalition anti-Daesh qui avait pourtant mené un courageux combat contre les djihadistes au nord-est de la Syrie. Poursuivant ses coups d'entaille au multilatéralisme, il s'est retiré du traité FNI sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, l'un des grands symboles de la guerre froide. Il a aussi officialisé sa sortie de l'accord de Paris sur le climat et assumé l'idée d'une guerre commerciale totale contre la Chine. Il a menacé Paris de sanctions pour répondre à la taxe française sur le numérique. Il ignore, méprise ou combat l'Union européenne. Bref, et la liste est loin d'être exhaustive, Donald Trump a continué à briser les tabous, à transgresser les règles internationales, à malmener les alliances traditionnelles, à renverser la table. Pour quel résultat? À l'intérieur, son style disruptif plaît toujours autant à ses électeurs qui ne sont guère affectés par la procédure de destitution lancée contre lui. À l'extérieur, les choses sont plus compliquées. La stratégie iranienne de Trump a provoqué l'inverse de l'effet recherché, une radicalisation du pouvoir qui viole désormais ouvertement l'accord nucléaire. Le deal du siècle annoncé avec la Corée du Nord n'a pas eu lieu. L'accord final qui devait mettre fin au conflit israélo-palestinien s'est transformé en fiasco. Même le retrait américain de Syrie n'a finalement pas eu lieu. Donald Trump déconstruit, casse, brise, mais peut-il bâtir autre chose à la place? Est-il un destructeur ou bien ne fait-il qu'accompagner et anticiper, certes avec brutalité mais aussi instinct, les changements du monde? Qu'est-ce que sa méthode et sa personnalité ont d'ores et déjà modifié de manière définitive dans les relations internationales? Quelles sont les conséquences de sa politique de rupture? Avec nous pour en parler sur ce plateau, Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier livre, La Revanche de l'Histoire, est paru chez Odile Jacob. Vous êtes spécialiste de géostratégie, vous êtes aussi un bon connaisseur des États-Unis. Martin Quences, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du bureau parisien du German Marshall Fund, dont la raison d'être est de promouvoir les relations transatlantiques. Vous êtes aussi chercheur associé au Conseil européen des affaires stratégiques. Alors, Bruno Tertrais, qu'est-ce qu'il y a eu comme succès cette année de la politique étrangère de Trump?
On les cherche, les succès. S'il fallait, vous nous mettez un peu au défi, s'il fallait absolument en trouver un, bah, je dirais que peut-être que finalement, cette insistance de Donald Trump à dire, bah, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, dans le cadre de l'OTAN, il faut absolument que les pays dépensent plus parce que sinon je m'en vais. Hein, c'est vraiment, c'est retenez-moi où je fais un malheur. Il fait ça dans beaucoup de domaines. certains disent que peut-être que, notamment les pays d'Europe centrale, en tout cas, il y en a qui ont tellement peur qu'effectivement, ils fassent une bêtise, ils sortent de l'OTAN brutalement, que ça les a poussés à augmenter leurs dépenses de défense. Bon, je crois, moi, que finalement, le mouvement d'augmentation de la dépense de défense en Europe, il était déjà commencé avant Donald Trump, mais peut-être que ça a un petit peu aidé à légitimer cet effort dans certains pays d'Europe. Mais vous me posez encore une fois une colle, parce que je cherche.
Une prise de conscience ?
Non, alors... S'il y a prise de conscience, c'est autre chose. C'est la prise de conscience, elle est européenne et notamment française, mais les Français le disent depuis longtemps, c'est la prise de conscience de la fragilité de cette alliance, non pas avec les États-Unis, parce que sur le plan bilatéral, avec le Pentagone en général, ça se passe bien, pour la France, pour la Pologne, ça se passe plutôt bien, mais de la fragilité politique de l'Alliance Atlantique. Donc, cette prise de conscience, c'est pas forcément ça que cherchait Donald Trump, mais quelque part, il nous a peut-être aussi rendu un service, effectivement. C'est pas un bilan positif, mais il aura peut-être, au fond, rendu un service à l'Europe. Simplement, il a mis l'Europe devant le fait accompli, devant le fait que sans l'Amérique, elle ne peut pas faire grand-chose.
Et si on parle de ces principaux échecs, des échecs de l'année 2019, quel serait celui que vous placeriez en premier ? Est-ce que c'est l'Iran ou plutôt l'Iran sera le succès, sera l'échec de 2020 ?
Je crois. Alors d'abord, échec par rapport à quoi ? Par rapport aux ambitions ? Je dirais que par rapport aux ambitions, le tout premier échec pour moi, c'est la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que la Corée du Nord, il a véritablement annoncé, il a cassé les codes, ça c'est trumpien, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'il peut y avoir du mérite quelque part à l'idée d'être un peu disruptif, hein, on y reviendra je pense, mais il s'est emparé du dossier nord-coréen, il a dit, souvenez-vous d'ailleurs, pendant la campagne électorale de 2016, il avait dit, j'irais bien manger un hamburger avec Kim Jong-un, hein, il l'avait prévenu. Donc, il casse le tabou d'une rencontre directe avec Kim Jong-un, il va même jusqu'à poser le pied en Corée du Nord. Bon, il a quand même fait, là, pour le coup, des gestes tout à fait considérables sur le plan symbolique. Qu'est-ce que ça donne ? Absolument rien, mais alors rien de rien. Et j'allais dire que c'est presque encore pire. On y reviendra peut-être si on fait un prospective sur 2020. C'est presque encore pire parce que, le dirigeant nord-coréen, qui pensait avoir un partenaire, en fait, se dit qu'il y a un grand malentendu. Et donc, je crains que cette tentative de diplomatie personnelle, ça risque d'envenimer encore la situation nord-coréenne. Donc moi, je mettrais tout ça en premier échec. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il a voulu, devant le monde entier, dire, là, je fais quelque chose qui va transformer la scène internationale. Non seulement c'est raté, mais je pense qu'il a encore empiré la situation.
Et sur l'Iran ?
Alors, sur l'Iran, le bilan est encore un petit peu difficile à faire, parce que est-ce qu'on peut dire que sa stratégie a totalement échoué ? Sa stratégie, c'est de dire il faut faire pression sur les Iraniens pour avoir un meilleur accord. Je pense que ça n'a absolument aucune chance de marcher. Mais là, je dirais que les effets négatifs sont pas encore totalement visibles. Vous avez rappelé à juste titre que l'Iran, de son côté, multipliait les gestes de reprise de certaines activités nucléaires. Mais l'Iran n'a pas non plus décidé de sortir, de casser complètement l'accord nucléaire. Donc, est-ce que c'est un échec ?
Ça pourrait arriver le 6 janvier prochain, puisque le 6 janvier prochain, une nouvelle violation est prévue, qui pourrait être là, à nouveau l'enrichissement de l'uranium à 20%, on est dans la violation totale de l'accord.
Mais ça fait quasiment un an que les Iraniens font aussi du « retenez-moi ou je fais un malheur ». Donc je dirais certainement pas succès. Est-ce que c'est un échec total ? C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est une situation extrêmement négative, voire dramatique pour tout le monde, dans tous les cas de figure. Mais c'est un petit peu trop tôt pour parler d'échec total, parce qu'après tout, certains experts américains, certains experts israéliens disent peut-être qu'on a des chances, si ce pouvoir est vraiment sous pression, de reprendre des négociations en coulisses. Bon, donc je suis un tout petit peu moins ferme sur le ratage total, mais je pense que d'ici un an, on aura la réponse et qu'elle sera probablement négative.
Ce sera pour l'émission de 2020.
Ils disent que je ne suis pas populaire en Europe, mais je ne devrais pas être populaire en Europe. Si c'était le cas, je ferais mal mon boulot. Je veux que l'Europe paye. L'Allemagne paye 1%, ils devraient payer 4%. Je ne devrais pas être populaire en Europe. Ils avaient fait un sondage où j'étais à 88%, et maintenant je suis très bas en Europe. Mais je m'en fiche de l'Europe. Je ne suis pas élu par des Européens, je suis élu par des Américains.
Voilà comment Donald Trump s'en prenait aux Européens à propos de l'OTAN en janvier dernier. Alors, Martin Quences, est-ce que Donald Trump malmène vraiment de manière forte et régulière l'Europe ? Est-ce qu'il est en train de tuer la relation transatlantique ?
Non, je pense qu'il y a, des tendances un peu plus fortes qui tiennent encore, et il faut distinguer la manière dont nous en France, dont la manière dont le débat français est construit sur cette relation transatlantique sous Donald Trump, et les débats dans d'autres pays européens. Il y a une vraie division européenne sur la manière dont on doit engager le dialogue avec l'administration Trump et finalement comprendre cette ère transatlantique. Je pense qu'il On a ici en France un débat qui est assez d'un consensus de dire que Trump est un symptôme d'une tendance beaucoup plus longue, qui ne constitue pas lui-même la crise, mais qu'il révèle des tendances fortes et qu'il n'y a pas, il n'y aura évidemment pas de retour à la normale après Trump. Et en cela, c'est donc il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre cette nouvelle ère. C'est pas du tout la manière dont beaucoup de nos alliés européens analysent cette nouvelle ère transatlantique. Et ils ont, à mon avis, également des arguments qui peuvent s'entendre. Que ce soit en Europe centrale, où ils voient, à l'inverse, un renforcement de la présence américaine sur leur territoire, un discours aussi sur des questions politiques qui les rassure. Le dernier voyage de Barack Obama en Pologne, où il s'attaquait aux questions de violation de l'état de droit dans ce pays, n'était pas quelque chose qui était vu de manière très positive par le gouvernement polonais. À l'inverse, le fait que Donald Trump ne parle absolument pas de ces enjeux est considéré par ce même gouvernement comme un renforcement de la relation transatlantique. En Allemagne, on a un certain nombre d'officiels dont le discours est explicite et de dire il faut survivre à Trump 4 ans, 8 ans, et puis on pourra redémarrer après une relation. Donc, en tout cas, côté européen, il n'est pas question de dire que la relation transatlantique a été détruite par Donald Trump. Et je pense qu'il faut également réfléchir pourquoi nous, en France, on est un petit peu en décalage avec certains de nos alliés. Alors, il y a des raisons qui sont historiques. Je pense que on a aussi envie de voir une confirmation de certaines choses qu'on pense depuis peut-être la guerre de Suez dans le cas de la relation franco-américaine. Je pense qu'il y a également une personnalisation de notre relation entre Macron et Trump très forte, qui fait qu'on a véritablement investi dans la personne de Trump. Aujourd'hui, il y a quelques mois, je me rappelle, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, disait « En ce qui concerne les États-Unis, nous n'avons qu'un seul interlocuteur, c'est Donald Trump ». Et donc, il se refuse de considérer le pouvoir du Congrès. Est-ce que les adultes dans la salle ont un rôle? Est-ce que le changement de John Bolton pour tel... Non, l'important, c'est Donald Trump. D'autres pays considèrent, non, il y a d'autres forces aux États-Unis qu'il faut entendre, et il y a une complexité. Moi, je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, caractérise notre relation transatlantique. C'est que nous sommes, nous, Européens, tout à fait incapables d'avoir une vision commune de ce que Trump représente pour notre relation avec les États-Unis.
Néanmoins, quand même, il y a une volonté, il y a une agressivité trumpienne vis-à-vis de l'Union européenne qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez les autres présidents américains, même ceux qui manifestaient une distance vis-à-vis du vieux continent comme Barack Obama. Enfin, si, on l'a vu un petit peu à l'époque de Bush pendant la guerre d'Irak, mais sinon, est-ce qu'on peut dire, comme on peut dire par exemple de la Russie de Vladimir Poutine, que l'Amérique de Trump a pour but de diviser l'Europe et qu'elle en veut en fait à l'Union européenne?
Absolument, et c'est pour ça que moi je pense que
ça, c'est disrupteur.
C'est disrupteur, c'est en ça que le trumpisme peut être une parenthèse. Il n'y a pas de déterminisme à penser que ad vitam aeternam désormais l'administration américaine sera fondamentalement hostile au projet européen et à l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans l'administration Trump, qui n'est pas nécessairement ce qui se passera après novembre 2020 ou en novembre 2024. Il y a une singularité, à mon avis, dans cette hostilité. Maintenant, sur les thématiques d'affrontement. Sur l'OTAN, on a eu d'autres administrations, l'administration Obama en particulier, qui avait eu un discours assez dur sur le fait que les Européens ne payaient pas assez. Sur l'accord iranien, on peut refaire l'histoire, mais un autre président républicain aurait probablement également se serait retiré de cet accord, en tout cas l'aurait dénoncé, de la même manière sur la question climatique. Donc il faut essayer de voir en quoi Trump est singulier ici. Moi, je vois un certain nombre de choses qui, finalement, auraient été les mêmes dans d'autres circonstances politiques à Washington.
Bruno Tertrais.
Oui, je voudrais revenir. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Martin Quences pour dire que la singularité trumpienne n'est pas toujours aussi forte que ce que nous, Français, nous, Européens, voulons bien voir. Pour moi, elle est singulière d'abord par le style. Le style de gouvernance, cette déconnexion complète entre la Maison-Blanche et le reste de l'administration, son style de...
On va y venir. Ouais. C'est le sujet de notre deuxième partie, le style.
Alors, je voudrais revenir sur le point de fond qu'évoquait Martin, c'est l'attitude de l'administration Trump vis-à-vis de l'Europe. Et là, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'Europe et il y a l'Union européenne. Diviser l'Europe, oui, tout à fait, bien sûr, vous avez raison. Et c'est pas le premier président américain qui souhaite plutôt une Europe divisée parce que on peut jouer les uns contre les autres et on n'a pas des Européens qui arrivent comme ça de front en tant que grande puissance collective devant les États-Unis. Ce qui est intéressant sous Trump, c'est qu'on a véritablement une administration décidée à faire la peau à l'Union européenne en tant qu'institution. C'est ça qui est quand même particulièrement inquiétant. Devant l'institution à laquelle appartient Martin, qui est le German Marshall Fund, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a fait à Bruxelles, hein, pas à Washington, un discours totalement hallucinant il y a environ un an, dans lequel il n'hésitait pas à dire que l'Union européenne était un adversaire. Alors, pas un adversaire militaire, évidemment, mais un adversaire notamment sur le plan commercial. Alors, les rivalités commerciales transatlantiques, elles sont bien connues, et ça date pas d'hier, mais au moins, entre amis, on essaie de prendre un tout petit peu de gants dans la manière dont, publiquement, solennellement, on parle de nos divergences. Et là, ce discours m'avait vraiment, moi, sonné, parce que je n'ai jamais vu, et je crois qu'on n'a jamais vu depuis 30 ans, et sans doute même avant, un dirigeant américain de premier plan s'en prendre à l'Union européenne en tant qu'institution. Vous voyez, donc il y a l'attitude vis-à-vis de l'Europe en général, du continent européen, et l'attitude vis-à-vis de l'Union européenne.
Peut-être juste un mot là-dessus.
Allez-y, Martin,
ce qui était intéressant, c'était en 2008, au début de l'administration Obama, très vite l'administration avait cherché à renforcer son lien avec Bruxelles, avec les institutions européennes. Et on entendait, côté républicain, quelques voix très marginales qui disaient « Mais vous êtes fous, l'Union européenne post-traité de Lisbonne va devenir un adversaire géopolitique, vous êtes en train de donner finalement les clés de la relation transatlantique un bloc européen qui pourrait être notre adversaire. » Ces voix-là ont totalement disparu du discours républicain pendant environ 6-7 ans et aujourd'hui forment une forme de ligne directrice de l'administration Trump. Donc il y a vraiment une singularité, comme disait Bruno, sur l'hostilité vis-à-vis de l'Union européenne, quelque chose qui était à peine visible il y a encore 10 ans et maintenant mainstream à Washington.
Et qui est aussi une hostilité vis-à-vis des institutions multilatérales, puisque c'est la même hostilité d'une certaine manière vis-à-vis des Nations Unies ou d'autres. Il y a une spécificité dans la relation transatlantique, mais c'est quand même aussi, on s'en prend pas seulement à l'Union, mais aussi aux grandes institutions multilatérales.
On va passer un petit moment maintenant sur les questions de méthode, de forme et de style. Alors, Martin Quences, est-ce que Donald Trump, qui est-il? Est-ce que c'est une brute inculte ou un dirigeant politique du 21e siècle doté d'un instinct redoutable? Quelle est sa personnalité véritable?
Je fais part de la psychologie de comptoir ici. Il me semble qu'en effet, il a toutes les caractéristiques d'une brute, en effet, qu'il est ce qu'on appellerait un bully, vraiment quelqu'un qui pense fondamentalement que tout se joue sur des rapports de force et qu'il s'agit d'écraser son interlocuteur dans toutes circonstances. C'est quelqu'un qui est très crédible lorsqu'il se présente comme un outsider, quelqu'un qui n'appartient pas justement à ce monde diplomatique assez faux à ses yeux, assez hypocrite, et qu'il peut dire mais moi je parle le langage vrai, je dis véritablement ce que je pense. Alors c'est un discours, une rhétorique très classique qu'on entend à peu près partout dans le monde. Trump est assez crédible quand il se présente ainsi, parce que c'est vrai qu'il dénote. Je pense qu'il y a un point néanmoins sur Donald Trump, c'est que il n'a pas fondamentalement une grande vision du monde et une grande stratégie. C'est une discussion qui est née dès la campagne de 2015-2016. Dans la littérature américaine, il y a des articles très bons sur le fait qu'il y a une historicité de la vision de Trump. On peut retracer dès la fin des années 80 ce qu'il pouvait dire sur la relation avec le Japon, les critiques qu'il avait faites sur la politique commerciale américaine. Dans le fond, je pense que ces arguments restent assez faibles. Trump a quelques idées, des grandes idées qui lui permettent de comprendre le monde, mais il reste quelqu'un qui est assez facilement influençable, semble-t-il, de la dernière personne qui lui a parlé avant qu'il doit pas.
Et toujours en cela, le Trump de 2019 n'a pas appris par
rapport à 2017. C'est probablement un président qui est plus à l'aise et qui donc n'a de moins en moins d'ailleurs de contraintes autour de lui. Très clairement, il a réussi à effacer toutes les personnes qui pouvaient s'opposer à ses positions, ses instincts premiers. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas surévaluer le côté machiavélique derrière la communication de Trump. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut étudier comme une manière d'être un disrupteur, d'opposer les alliés et les ennemis, etc. Je crois qu'il est plus simplement quelqu'un qui réagit un peu à l'instinct.
Vous avez la même vision, Bruno Tertrais, sur la communication politique de Trump ?
Globalement, oui. À votre question, Isabelle Lasserre, la réponse est évidemment les deux. C'est à la fois, oui, c'est une brute, oui, il est assez inculte, et c'est en même temps un dirigeant du 21e siècle qui réussit, qui sera peut-être réélu, parce qu'il a un formidable instinct politique, et il a un sens tactique absolument redoutable. Premièrement, il a dit, voilà, dans mon programme, j'ai 5 ou 6 éléments, je les applique, les uns après les autres. Et c'est ce qu'il fait, et ça se voit. On peut gloser sur sa stratégie de construction d'un mur en dur à la frontière avec le Mexique, en parlant de ses échecs vis-à-vis du Congrès, etc. Mais n'empêche qu'il n'arrête pas de dire, ce mur, je le construis et je le construirai. Donc ça permet de dire, moi, je tiens mes promesses. Il n'en fait pas beaucoup, mais celle qui tient... Et celle qu'il effectivement réalise, eh bien, ça se voit. Il avait dit je casserai l'accord avec l'Iran. Il a cassé l'accord avec l'Iran. Donc il faut, je peux dire à la fois c'est une brute épaisse et c'est un redoutable politicien. Regardez ce qui se passe à propos de l'impeachment. Il a très bien saisi que ça pouvait tout à fait lui bénéficier.
Le servir, hein.
Non, moi je crois que dans son style, il y a trois éléments qui me frappent et qui font la singularité de Trump le disruptif. C'est d'abord l'isolement de la Maison Blanche. Alors là, vraiment, on a une Maison Blanche complètement déconnectée du reste de l'administration, et avec un président qui, de plus en plus, malheureusement, comme dans tous les grands régimes autoritaires à travers l'histoire, qui n'est entouré que de gens qui ne savent pas lui dire non. Il n'est entouré que de béni oui oui. C'est très dangereux d'ailleurs, parce que en termes de perception du monde, c'est pas ça qui va arranger. C'est un dirigeant souverain, mais enfin, autant qu'il comprenne bien ce qui se passe autour de lui, et ce qui, pour bien comprendre ce qui se passe autour de lui, comme dans la vie, on a besoin de gens qui vous disent, là, tu te trompes complètement. Je crois qu'il n'y a pas grand monde autour de lui pour lui dire ça. Deuxièmement, la communication, parce que Twitter est devenu un outil de gouvernance central. Les réformes, les décisions militaires, ces décisions de personnel sont faites par Twitter. Et c'est extraordinairement important, parce que ça veut dire que, d'un moment à l'autre, Trump peut annoncer au monde et aux États-Unis, des décisions absolument majeures que personne n'a vu venir. On en a parlé, Emmanuel Macron a été très surpris et de voir que la décision du retrait de Syrie, par exemple, il l'a découverte par un tweet. Et moi, je dis souvent à nos partenaires d'Europe centrale, orientale, aux Baltes, oh, mais nous, ça va très bien, parce que ce qu'on voit, c'est les soldats américains qui sont là, et c'est le Pentagone, ça se passe très bien. Je dis, mais chers amis, vous ne savez pas que tout ça peut être détruit par un tweet. C'est ça le problème. Donc il y a cette déconnexion complète avec l'administration. Troisièmement, le langage, quand même, l'extraordinaire vulgarité. C'est plus que de la brutalité, c'est la vulgarité. On est au-delà du rapport de force pur et simple entre hommes et femmes du monde, mais il se comporte à la fois comme un businessman. D'ailleurs, il le dit. Moi, j'ai besoin de faire peur. Je monte très haut les enchères, etc. Et puis aussi extraordinairement infantile. Là, je ne vais pas non plus rentrer dans la psychanalyse de bazar ou de comptoir. Enfin, ce type serait un régal de psychanalyse. Quand on compare quand on voit la manière dont il se comporte avec les femmes, dont il s'est toujours comporté avec les femmes, quand on voit la manière dont il se comporte avec les faibles, c'est quelqu'un qui est fort avec les faibles, mais seulement. On peut imaginer qu'il serait peut-être faible avec les forts, seulement il n'y a pas beaucoup de forts. Et il n'y a qu'avec Xi Jinping, quelque part, qu'il est dans le respect, parce qu'il dit, ah, lui, c'est un fort. Donc... Et donc, c'est ce type de personnalité narcissique extraordinairement perverse. Et forcément, c'est aussi celui qui devient faible avec les forts. Quelque part, Trump, c'est ça aussi. Et si Trump était le dirigeant d'une puissance moyenne, je pense qu'on le verrait avoir un langage différent. C'est tout ça qui est disruptif. Ça fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est une personnalité exceptionnelle qui, en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, Isabelle Lasserre, représente une tendance du 21e siècle qu'on peut regretter, mais voilà, c'est comme ça, il faut le prendre comme il est, et puis surtout, et je crois qu'Emmanuel Macron l'a plutôt bien fait d'ailleurs. Après ça, il y aura la question de savoir qu'est-ce qui se passe après, et si l'après est dans 4 ans, bon, on verra.
L'après, c'est après dans l'émission, justement. Martin Quincez, est-ce que c'est pour ça que Trump s'entend particulièrement bien avec les dictateurs?
Alors, bon,
ou est-ce que c'est vrai d'abord?
Je pense que, en tout cas, dans les deux premières années, le dirigeant du monde avec qui il s'est entendu le mieux, en tout cas, il le disait de manière le plus publique, c'était Emmanuel Macron. Donc, je ne sais pas si ça correspond exactement à ça. Il y a, en tout cas, chez Trump, une volonté de personnaliser sa relation avec les autres pays. L'idée que lorsqu'il rencontre un dirigeant, il rencontre ce pays finalement, et que les décisions qui sont prises en bilatéral sont des vraies décisions, ça le renforce. À l'inverse, quand il doit rencontrer Angela Merkel et qu'il sait, ou en tout cas qu'il comprend, qu'elle ne représente pas la reine d'Allemagne, mais qu'il y a derrière un parlement qui va jouer un rôle, qu'il y a derrière une coalition qui peut... Ça transforme finalement la relation de pouvoir, et pour lui, c'est difficile. Avec les régimes autoritaires, Donald Trump a, comme le disait Bruno, une fascination aussi pour les forts et pour les violents. Il y a toujours eu, dans son discours, je me rappelle notamment en 2016, durant la campagne, lorsqu'on lui disait Vladimir Poutine est un tueur, et qu'il répondait, mais pensez-vous que nous sommes tellement naïfs ou tellement gentils? Il y a cette fascination finalement du dur, et peut-être même parfois de l'horreur quand il apprend que tel leader est suspecté d'avoir commis tel crime, comme dans le cas par exemple de l'Arabie Saoudite. Il en fait finalement un argument comme quoi ce leader doit être respecté, et il serait absolument absurde de tourner le dos à quelqu'un d'aussi violent et aussi dur que ça. Donc il retourne toujours les situations. Plus vous êtes autoritaire, plus vous méritez le respect. Plus vous êtes accusé d'horreur, plus finalement il faut bien vous traiter. Et c'est comme ça depuis 2016.
Vous écoutez Culture Monde, on est ensemble jusqu'à midi avec Bruno Tertret et Martin Quincez pour parler de Donald Trump.
France Culture, Culture Monde, Isabelle Lasserre.
Ce n'est pas une surprise, nous l'avions déjà vu avec l'accord sur le climat ou sur l'Iran. En quelques secondes, vous pouvez détruire toute confiance via un message Twitter de 280 caractères. Mais pour reconstruire, cela prendra plus de temps, on doit garder la tête froide et en tirer les bonnes conséquences.
Voilà comment Heiko Haas, le chef de la diplomatie allemande, analysait les perpétuelles volte-face de Donald Trump lors du G7 de 2008 au Canada. Rejoignons maintenant Gérard Haro au téléphone depuis New York. Gérard Haro, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez ambassadeur de France à Washington quand Donald Trump a été élu, et vous venez de publier vos mémoires, Passeport diplomatique 40 ans au Quai d'Orsay, chez Grasset. Alors Gérard Haro, ça ressemble à quoi la diplomatie avec Donald Trump ?
C'est assez particulier. Je dirais, au-delà même de la diplomatie, c'est-à-dire c'est le fonctionnement de l'administration américaine qui a totalement changé. Donald Trump, c'est un homme qui n'a absolument aucune expérience du pouvoir exécutif. C'est lui seul qui décide. Et donc, lorsque vous êtes un ambassadeur à Washington, mais c'est la même chose lorsque vous êtes un haut fonctionnaire qui veut traiter avec l'administration américaine, vous n'avez plus d'interlocuteur. Soit les bureaux sont vides parce que les hauts fonctionnaires n'ont pas été nommés, Donald Trump est totalement indifférent à cette question, soit les malheureux fonctionnaires sont partis, car la rotation est extrêmement forte. Et même si vous trouvez dans un bureau un fonctionnaire, il ne saura pas ce que Donald Trump va dire le lendemain, et il ne sait pas ce que veut dire Donald Trump la veille. Donc il y a plus généralement, au-delà même de la diplomatie, vous avez un État américain, une administration américaine totalement dysfonctionnelle. Il n'y a plus qu'une personne qui décide, c'est Donald Trump.
Alors, vous avez connu deux présidents américains à Washington, Barack Obama et Donald Trump. Avec lequel, finalement, était-il plus facile de traiter? Parce que, en fait, j'ai entendu des diplomates, moi, dire dans certains couloirs, c'était au début du mandat Trump, pas en 2019, hein, qu'il était plus facile de négocier avec Trump parce que il était cash, transparent, qu'on savait toujours où c'était vraiment très clair, quand Barack Obama, au contraire, était souvent ambigu et indifférent vis-à-vis de la France. Est-ce que c'est aussi votre opinion ?
Vous savez, d'abord, Obama et Trump, c'est les deux faces quasiment opposées d'un président. Obama, c'est le technocrate ultime qui, tous les soirs, partait se coucher à 10 heures avec 60 pages de documents qu'il rendait le lendemain à noter. C'était l'homme qui tenait des réunions de 3, 4, 5 heures avant de prendre des décisions. Donc, vraiment, le bureaucrate quasiment type. Et vous avez d'un autre côté un Trump qui ne dit rien. Ses amis disent qu'il est dyslexique. Et qui n'écoute absolument pas ses fonctionnaires parce qu'il considère être le meilleur. Un milliardaire de New York m'a expliqué que Trump, après son élection, lui a demandé « Que dois-je faire ?» Et l'homme lui a répondu « Mais c'est simple, tu dois engager autour de toi les meilleurs. » Et Trump lui aurait répondu « Mais c'est moi le meilleur. » Et c'est un petit peu ça le résumé de la présidence Trump. Et négocier avec Trump, c'est très difficile parce que comme il ne connaît pas le détail des dossiers, il dira oui, on lui dira non, mais à la fin du compte, on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit ou ce qu'il a approuvé ou ce qu'il a désapprouvé. Moi, il m'est arrivé après des entretiens téléphoniques Trump-Macron qu'on m'envoie au Conseil national de sécurité américain pour m'assurer qu'il y avait vraiment un accord et les termes de cet accord. Et je découvrais qu'en face de moi, les gens n'étaient même pas au courant de l'appel téléphonique. Ou ne savaient même pas ce que Trump lui-même avait dit. Le 13 juillet 2017, Trump vient à Paris pour le 14 juillet. En conversation entre les deux présidents, et Trump dit à Macron, on ne sait pas pourquoi, il dit à Macron, oui, finalement, peut-être qu'on devrait revenir dans l'accord sur le climat. Le lendemain, vous imaginez bien que le lendemain ou même quelques heures plus tard, Paris enthousiaste m'appelle en me disant « ça y est, ils reviennent dans l'accord sur le climat ». Nul à Washington n'avait entendu parler de cette déclaration de Trump et lorsque Trump est rentré à Washington, il n'en a parlé à personne. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est ce chaos gouvernemental américain avec cette personne qui tranche, mais on ne sait pas exactement de quoi, sur quelle base et que veut dire ce qu'il va décider.
Est-ce que la méthode Macron est la bonne? Parce que pour l'instant, on peut constater qu'elle n'a pas vraiment donné de résultats concrets. Comme vous le dites, on n'a pas réussi à convaincre Trump de revenir dans l'accord sur le climat et on n'a pas réussi à convaincre Trump de négocier directement avec les Iraniens pour sauver l'accord sur le nucléaire. Est-ce que c'est la bonne méthode? Y en a-t-il d'ailleurs une bonne méthode avec Donald Trump?
C'est la bonne question. Qui a une meilleure méthode? Vous savez, d'abord, tous les chefs d'État occidentaux, à tour de rôle, ont eu droit à des tweets vengeurs ou agressifs de Trump. Il y a eu un coup de téléphone entre Theresa May et Donald Trump. L'ambassadeur du Royaume-Uni me disait après qu'il n'avait jamais entendu de sa vie un appel téléphonique de cette sorte où Trump insultait le Premier ministre britannique. On est quand même là dans un tout autre monde. Ce que Macron a réussi, c'est qu'il a gardé sa relation, il a gardé la possibilité d'appeler Trump pour essayer de le faire changer d'avis. Et il a par exemple pendant au moins 18 mois, il a réussi à empêcher Trump d'évacuer la Syrie. Parce que dès son arrivée, Trump voulait que les Américains quittent la Syrie. Alors, ça n'a duré que 18 mois, mais c'était déjà 18 mois et ça a permis tout au moins d'infliger, peut-être pas la défaite finale, mais en tout cas une défaite sérieuse à Daesh.
Vous écrivez, Gérard Araud, dans votre livre « Passeport diplomatique » que, en politique étrangère, Donald Trump n'est ni une rupture, ni une aberration.
Oui, parce que nous sortons d'une époque d'engagement des Américains dans la vie internationale et notamment d'engagement des Américains pour la défense de l'Europe. Et naturellement, nous sommes nés là-dedans, nous avons vécu là-dedans et nous considérons que c'est naturel. Mais en réalité, si vous regardez l'histoire des États-Unis sur deux siècles, sur 2 siècles et demi maintenant, quasiment, vous vous rendez compte que c'est plutôt la réalité de la politique étrangère américaine. Ça a toujours été plutôt d'éviter les engagements internationaux. Les États-Unis sont sortis de cet isolement fondamentalement à cause de la menace soviétique. Et donc il y a aujourd'hui aux États-Unis une lassitude dans l'opinion publique pour les engagements internationaux, en particulier après ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak. Et il y a une question rémanente qui n'est pas idiote. Vous savez, Trump pose souvent de manière brutale et primitive des questions qui ne sont pas idiotes, mais qui, dans l'establishment des penseurs, des experts, des think tanks washingtoniens, apparaît comme une aberration ou une stupidité. Par exemple, il dit « Pourquoi les Américains défendent l'Europe ?» C'est une vraie question. Pourquoi les Américains dépensent tant d'argent pour la défense de l'Europe alors que l'Allemagne en dépense 1,4% de son PNB? Voilà, il pose une série de questions, mais Obama aussi l'a posé, mais Obama le faisait à sa manière très sophistiquée, beaucoup plus intelligente. C'est Obama qui n'a pas voulu intervenir en Irak. C'est Obama qui n'a pas voulu intervenir en Syrie. Moi, je suis convaincu, mais il faudra vérifier l'histoire, on verra si c'est vrai, mais moi, je suis convaincu que c'est fini le moment où les États-Unis étaient le gendarme du monde. Alors, évidemment, on ne peut pas revenir à l'isolationnisme des années 30. L'économie, la technologie ne nous le permettent pas, mais nous changeons d'air. Et le futur président américain, d'ailleurs, si c'est par exemple Elizabeth Warren, certainement, le président américain, même s'il est plus rassurant et plus poli avec les Européens, je pense, restera sur la même ligne.
Il déconstruit Donald Trump, mais est-ce qu'il construit quelque chose, Gérard Araud ?
Je pense qu'il, pour lui, fondamentalement, quand il dit « America first », c'est « America alone », c'est l'Amérique seule. Il conçoit les relations internationales sur la barre des rapports de force les plus brutaux. Et comme je l'ai déjà expliqué, il traitera le Royaume-Uni comme il traite la Chine. Quand il veut négocier un accord de libre-échange, il y aura du sang britannique sur les murs. Donc sa vision, c'est un monde de d'État-nation et des relations internationales fondées sur les rapports de force. Au fond, il voudrait un retour du monde au monde de 1914. Mais étendu à l'ensemble du monde. Il ignore totalement, parce qu'il a 71 ans, 72 ans, il ignore totalement qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et c'est en ce sens-là qu'il mène les Américains, ou les États-Unis en tout cas, un petit peu dans une impasse.
Merci beaucoup Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Merci d'avoir partagé votre expérience sur notre antenne. On continue notre débat sur Donald Trump. Vous êtes sur Culture Monde. Bruno Tertrais, finalement, qu'est-ce que Donald Trump a changé dans les relations internationales? Est-ce qu'on peut faire un espèce de bilan de sa disruption, enfin, de ses actions, des ruptures qu'il a ancrées dans le système international? Oui. Je vous ai vu hausser les paupières sur ce sujet.
Une paupière sur deux seulement, ouais. Car je respecte infiniment l'analyse de Gérard Araud et nous avons parfois des petits désaccords, mais de nuances. Premier élément de réponse à votre question. D'abord, c'est pas Donald Trump tout seul. C'est quand même un monde dans lequel on a un certain nombre de dirigeants d'États clés, y compris les plus grandes puissances de la planète, qui sont aussi des brutes. Nous sommes dans un monde de brutes. C'est comme ça. Et donc, on ne peut pas parler du monde avec Trump sans parler du monde avec Xi, avec Poutine, avec Modi, avec Erdogan, etc., etc. Donc, c'est le premier élément. Deuxièmement, là où je suis un petit peu plus neutre, je vais dire, que Gérard Araud, c'est sur le fait qu'avec Obama et Trump, on retrouve la pente naturelle des États-Unis. Gérard le sait bien, Martin le sait bien, vous le savez bien, Isabelle Lasserre. L'histoire depuis 1945 des relations entre l'Europe et les États-Unis, c'est une suite de crises, de doutes émis de part et d'autre sur la pérennisation, sur l'intérêt pour l'Amérique, pour l'Europe, d'avoir cette relation de défense et de sécurité aussi forte. C'est quand même Kissinger qui disait en 1973, je crois, nos alliés, et ça avait secoué ça avait énormément secoué l'Europe. Nos alliés devraient, je cite pas de mémoire, devraient cesser de nous demander des garanties de sécurité que nous ne sommes plus à même de donner. D'ailleurs, il y aurait un livre à faire, ou au moins un article, j'en ai fait un petit, d'autres en feront, sur la comparaison entre Nixon et Trump. Pour tout un tas de raisons, y compris d'ailleurs parce que Nixon promettait un bel avenir politique à Donald Trump. J'ai retrouvé une lettre très intéressante de ce point de vue-là. Bon, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas encore, moi, si Donald Trump aura radicalement transformé l'Amérique, les relations transatlantiques et le monde. Ce que je sais, c'est qu'il a quand même renforcé certaines alliances. Regardez l'état de l'alliance avec l'Arabie Saoudite et Israël du côté américain. Ces deux alliances sous Obama étaient en très mauvais état. Donc, jusqu'au mois de septembre dernier, parce qu'au mois de septembre dernier, Donald Trump a décidé de ne pas riposter à une attaque sur l'Arabie Saoudite. Donc là, en ce moment, ça vacille un petit peu. Jusqu'au mois de septembre, l'alliance était beaucoup plus forte, solide, avec l'Arabie Saoudite qu'elle ne l'était sous Barack Obama. Donc, on peut pas dire qu'il détruit toutes les alliances, même s'il y en a d'autres encore qui ont souffert. On n'a pas parlé de l'Australie, par exemple, avec l'Australie, avec la Corée du Sud, bon, tout ça, ça va. Deuxièmement, il n'a pas réduit l'empreinte militaire américaine dans le monde. Il a réduit, quasiment supprimé.
Au contraire, en Syrie.
Au contraire, jusqu'à ce retrait, faux retrait. Enfin, il y avait un tweetos qui plaisantait sur le retrait annuel des Américains de Syrie. Bon, on ne sait pas encore où ils en seront dans quelques mois, mais l'empreinte de soldats déployés en permanence, d'équipements militaires, de bases et d'alliances, etc., tout ça, ça s'est plutôt renforcé sous Trump. Donc, Trump ne s'est pas désengagé. Troisième et dernier élément, il est quand même rentré avec la complicité active de son vice-président Mike Pence, en confrontation ouverte avec la Chine. Et notamment sur le plan militaire, on n'est pas dans la confrontation militaire ouverte, mais on est quand même là dans un jeu qui ressemble de plus en plus à une sorte de jeu d'échecs en Asie où chacun se regarde. Et en même temps, il n'a pas diminué la présence militaire en Europe. Hein. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu par la thèse du retrait américain du monde, y compris de l'Europe. Le problème, c'est la politique plus que le militaire. Enfin, dernier élément, je crois que il y a beaucoup de choses réversibles, il y en a d'autres qui sont irréversibles. Par exemple, quand l'Amérique de Trump décide, après des décennies d'hésitation, de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ça n'est pas réversible. Quand l'Amérique de Trump se retire de l'UNESCO, c'est réversible. Pourquoi ? Parce que ça avait déjà été fait sous Reagan. Donc ça, c'est réversible. Quand l'Amérique décide de ne pas nommer des juges à l'instance arbitrale de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est très grave, parce que ça empêche l'OMC de fonctionner normalement en ce moment, c'est réversible. Lorsque un tas de nominations ne sont pas effectivement remplies dans l'administration américaine, c'est réversible. Vous voyez, il y a un tas de choses qui sont réversibles. L'accord avec l'Iran, je pense que c'est pas réversible. Bon, il y a vraiment un bilan qu'il faudra faire, qu'il est un petit peu trop tôt pour faire. Je ne crois pas aujourd'hui que l'on puisse dire que d'abord on ne peut pas dire que Trump a cassé un ensemble de choses qui marchaient parfaitement avant, et on ne peut pas dire que tout est absolument irréversible. Ce qui changera beaucoup quand même, c'est la réélection ou non de Trump, parce que je crois qu'en 8 ans on peut faire beaucoup plus de dommages qu'en 4, dans tous les cas de figure, et là je crois que nous serons tous d'accord, Gérard, Martin, Isabelle et moi, pour dire que le retour à la normale n'existe pas, c'est un rêve ou un fantasme allemand, parce qu'il n'y a jamais eu de normal dans les relations transatlantiques. Ça a toujours été très compliqué, parfois moins compliqué, et parfois tout aussi compliqué que ça l'est aujourd'hui. Mais c'est vrai, là quand même, avec une personnalité extraordinairement brutale et disruptive.
Martin Quincez, sur ce sujet justement du nouveau monde qui est en train de construire Donald Trump, et de ce qu'on peut déjà juger aujourd'hui réversible ou irréversible.
Il y a un point en tout cas qui me semble difficilement réversible, mais qui ne dépend pas simplement de Trump, c'est le lien entre la politique intérieure américaine et sa politique extérieure. Il y a une polarisation de la politique américaine et qui a de plus en plus d'impact sur les choix de politique extérieure. Et c'est ça finalement que Trump a accompagné, parfois même aggravé.
C'était pas comme ça sous Barack Obama ?
Sous Barack Obama, on avait vu, par exemple, dans le cas de l'accord iranien, une division telle que on devenait pro-iranien quand on était démocrate, pro-israélien quand on était républicain. Ça devenait absolument absurde, parce que ce n'était pas dans cette binarité-là que se concevait l'accord en lui-même. Aujourd'hui, on voit dans les sondages d'opinion une division partisane totale de la vision des Américains du monde. Si vous êtes aujourd'hui républicain, vous n'aimez pas l'Allemagne. Si vous êtes aujourd'hui démocrate, vous avez un énorme problème avec la Russie et vous, au contraire, vous adorez l'Allemagne. Et de plus en plus, on a cette division, donc, au niveau intérieur qui se répercute dans les décisions de politique étrangère, ce qui devient problématique parce que, indépendamment de la question du retrait, et moi je suis assez neutre de savoir si sur le temps long ou pas les États-Unis resteront la garantie de sécurité de l'Europe. Indépendamment de ça, ce qui se joue pour nous, c'est tous les 4 ans ou tous les 8 ans, on risque d'avoir un chamboulement total de la politique étrangère américaine puisqu'on a une alternative, une alternance. Et cette imprédictabilité change notre manière de faire un calcul. On avait sous Obama en 2008 un président qui, évidemment, arrive après 8 ans de George W. Bush, qui va potentiellement changer les relations avec ce que Bush appelait la Nouvelle Europe. Donc Bush était très proche d'un certain nombre de pays à l'est de l'Allemagne. Obama va à l'inverse se rapprocher de Berlin, un petit peu de Paris et de Londres. Aujourd'hui, si on a Elizabeth Warren au pouvoir dans un an, on va avoir une présidence qui va énormément investir dans sa relation avec Berlin, avec Tokyo, avec Paris, et à l'inverse, qui va avoir du mal à relancer une relation avec Budapest ou Varsovie, puisqu'elles sont aujourd'hui représentatives, elles symbolisent l'Amérique de Trump, ces relations-là. De la même manière que si vous êtes aujourd'hui en Israël, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'un président démocrate profondément anti-Trumpiste doit reprendre le pouvoir en main et donc décider du futur de cette relation américano-israélienne. Moi, c'est cette polarisation qui a de plus en plus de répercussions au niveau international qui caractérise vraiment ce que Trump a pu faire, mais qui avait précédé Trump et qui continuera après lui.
Alors, peut-être, Bruno Tertrais, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi, il me semble que cette espèce de bilan de Trump, et particulièrement en 2019, qui me semble difficilement réversible, c'est l'affaiblissement de la parole américaine,
oui,
qui a été considérablement aggravé par son abandon des Kurdes, mais qui a déjà eu de multiples exemples, et notamment l'exemple de la non-réaction à l'attaque contre Aramco en Arabie Saoudite. Là aussi, elle vient après une période de distanciation de Barack Obama. Et ça va durer des années, non ?
Vous avez tout à fait raison. Lorsque je parlais tout à l'heure des échecs, c'est par rapport aux paris qui ont été tentés. Mais là où je vous rejoins, mais à 110%, c'est pour dire que s'il y a bien quelque chose qui va souffrir, elle a énormément et peut-être de manière irréversible si c'est 8 ans au lieu de 4, c'est la réputation des États-Unis. Alors d'abord, comme un pays démocratique, modèle pour le monde, ce dont Donald Trump se fiche totalement, mais j'allais dire, c'est son choix. Mais surtout pour sa réputation en tant que, non pas gendarme du monde, parce que moi j'aime pas tellement cette expression, les États-Unis n'ont jamais véritablement été le seul gendarme du monde, hein. Ça c'est douteux comme expression. Mais en tout cas, pour la réputation de protecteur et de garant de dernier ressort de la sécurité des pays, on va dire occidentaux, mais au sens le plus large du terme, y compris avec le Japon et la Corée du Sud. Et vous avez cité un épisode qui est effectivement assez fondateur. Ce 14 septembre, il y a quand même une attaque dont on sait maintenant que c'est une attaque iranienne très, très bien ciblée contre le cœur du pouvoir saoudien, contre des leviers de pouvoir saoudien, c'est-à-dire le pétrole, et aucune réaction américaine. Choc à Riyad. De même qu'il y avait eu, de manière différente, puisque s'il ne s'agissait pas d'un allié, un choc à Paris, lorsque, fin août, début septembre 2013, alors que les avions français, on raconte toujours cette anecdote, mais elle est fondatrice, sont prêts à partir pour donner un signal très fort.
Que leur moteur vrombisse déjà.
Et que le moteur vrombissait, tout absolument. François Hollande s'en est toujours pas remis, d'ailleurs, parce qu'il avait beaucoup misé sur cette idée. Il le raconte à chaque fois, mais c'est important parce que ça veut dire que c'est un allié sur lequel on compte pour pouvoir faire ensemble, adresser un signal très fort à un moment où le régime de Bachar el-Assad est faible, où l'opposition dite démocratique est encore forte. On dit l'emploi des armes chimiques contre la population civile est quelque chose d'inacceptable. Et on le regrette d'autant plus que c'est peut-être à ce moment-là qu'un signal, un simple signal, pas un bombardement de Damas, mais aurait pu peut-être inverser le cours de la guerre. Donc il y a cette abstention de 2013. il y a cette abstention de 2019, ça commence à faire beaucoup. Et si on a 8 ans de Trump après avoir eu 4 ans d'Obama, on voit que Obama utilisait la force de manière réticente, ça commence à faire énormément. Moi, je dis souvent que la décennie 2010, c'est l'année pour l'Amérique sur la scène internationale, des interventions réticentes et des alliances fragilisées. Voilà. Et là, pour le coup, il y a effectivement des éléments de continuité entre les deux. Et si c'est pas 8 ans, mais 12 ans, pardon, si c'est pas 12 ans, mais 16 ans, c'est-à-dire 4 ans d'Obama et 8 ans d'Obama et 8 ans de Trump, là, on pourrait rentrer effectivement dans un autre monde.
Mais Martin Quinces, finalement, je vais être un petit peu provocante, mais vous avez parlé d'Elizabeth Warren et des relations qu'elle pourrait avoir avec l'Europe. Mais dans sa politique étrangère, ça pourrait être pire que Donald Trump pour la France, par exemple. Dans son programme, on a un retrait encore plus affirmé des forces américaines dans le monde et des coupes sombres dans le budget du Pentagone.
Oui, alors ce qui est intéressant avec Elizabeth Warren, c'est qu'on a une idée quand même de son programme, notamment vis-à-vis de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on peut en parler. En effet, il y a cet aspect de garantie de sécurité américaine, de présence américaine dans notre voisinage, notamment le voisinage sud, qui poserait potentiellement problème. Néanmoins, il y a une différence fondamentale, c'est que ça serait une présidence profondément pro-Union européenne et qui cajolerait les alliances qui sont vues comme étant les principales victimes de la présidence de Trump. Donc en cela, avoir une présidente à partir de 2021 qui souhaite s'opposer à Trump, tout comme Trump souhaitait s'opposer à Obama lorsqu'il est arrivé au pouvoir, peut être très bon pour l'Europe. À l'inverse, on va avoir quelqu'un qui va donner des gages aux Européens pour participer à ce qu'il est possible de faire au projet de l'Union européenne. On a même des exemples concrets dans les idées de l'équipe de Elizabeth Warren sur l'industrie de défense américaine qui ne devrait pas guider les choix de l'administration américaine en ce qui concerne les projets de défense européens. Ça, c'est quelque chose qui changerait fondamentalement un certain nombre de problématiques transatlantiques aujourd'hui si on avait Elizabeth Warren à la tête des États-Unis. Donc, je comprends en effet les inquiétudes qui peuvent émerger sur l'idée d'un retrait avec une présidence Warren ou une présidence Bernie Sanders. Mais il y a une chose fondamentalement différente, c'est que ce seraient des présidents pro-européens.
Et quand même aussi des présidents. Vous savez, on parle d'Elizabeth Warren parce que elle incarne...
Donc qui est la candidate démocrate. Hein.
Une des candidates démocrates de premier plan. Il faut quand même pas oublier, je vais vous faire une révélation majeure, Isabelle Lasserre, un scoop, une rupture conceptuelle totale. Chaque président américain en campagne, chaque candidat américain en campagne depuis 1990, depuis plutôt 91, avant Clinton, s'est présenté comme quelqu'un qui dit « moi, je vais d'abord m'occuper de l'Amérique » et pour lesquels les questions internationales ont été relativement secondaires. C'est normal. Moi, je ne sais pas ce que sera Elizabeth Warren, ce que serait Elizabeth Warren présidente. On a une petite idée pour Joe Biden parce que c'est un homme plus connu dans sa pratique du pouvoir, mais vous savez... Ils ont tous dit, on veut moins s'occuper du Moyen-Orient. Ben, vous savez quoi?
C'est le Moyen-Orient qui se rappelle à eux à chaque fois.
Voilà. Vous avez beau ne pas vous intéresser. C'est comme Trotsky et la Révolution, si vous voulez. Vous avez beau ne pas vous intéresser au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient s'intéresse à vous. Ils ont tous voulu faire davantage de l'Asie, de la Chine, etc. La Chine, c'est assez consensuel. Il faut pas quand même rappeler, on a parlé de la Chine tout à l'heure, c'est pas seulement Trump et Pence, hein. Une administration démocrate pourrait être assez opposée. Voilà. Donc voilà. Je crois qu'on peut difficilement savoir, à partir de la campagne des primaires, ce que serait l'exercice effectif du pouvoir par un président américain élu un an plus tard.
Oui, mais alors, est-ce qu'on peut parler juste deux minutes du traité de force nucléaire intermédiaire? Parce que c'est une des choses que Trump a non pas... c'est pas lui qui a rompu ce traité. Hein. La Russie avait violé ce traité avant les États-Unis. Est-ce que c'est pas une des choses qui vont être le plus difficile à reconstruire, à construire en fait, à changer?
Je crois que ce fameux traité qui a symbolisé le début de la fin de la guerre froide en 1987, c'est fondamentalement un traité de la guerre froide et qu'il ne correspondait plus aux conditions de sécurité, que ce soit pour la Russie ou pour l'Amérique, ça ne correspondait plus aux conditions de sécurité nouvelles du 21e siècle. Je dis pas que c'était bien de s'en retirer. Il y a quand même un schéma assez clair depuis 30 ans. Les Russes viole les traités, les Américains s'en retirent. Ce qui est différent sur le plan politique, sur le plan éthique, sur le plan juridique. Mais on ne va pas pleurer un traité qui a été fait pour mettre un terme à la guerre froide, mais ça ne veut pas dire que son extinction signifie le retour à une autre forme de guerre froide. C'est plutôt un symptôme qu'autre chose. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, parce que toutes les disciplines du contrôle des armements, elles sont importantes. Mais je crois que c'est finalement un élément parmi d'autres d'une situation stratégique nouvelle qui se tend sur le continent européen. Et je ne suis pas sûr que pour nous Français, pour nous Européens, franchement, ça change radicalement la donne. Il y a infiniment de choses beaucoup plus importantes. Voilà, ce à quoi on assiste, c'est effectivement à cette espèce de connivence entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui chacun à leur manière. C'est pas un jeu, hein. Je crois que même s'ils s'entendent très bien, j'allais dire malheureusement, c'est pas un jeu, mais c'est vrai qu'il y a une connivence entre eux qui, pour des raisons différentes, détricote un certain nombre de disciplines, d'institutions, de règles, de procédures. On ne peut évidemment que le regretter.
Martin Kounsès, sur
oui,
ce
non,
sujet.
Oui, sur ce traité.
Parce qu'à la limite, l'OTAN aussi est une institution.
Ouais, c'est la question de la valeur
dépassée.
Ajoutée de l'OTAN a été posée. Mais sur ce traité en particulier, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure l'administration américaine est intéressée d'en parler avec les Européens pour construire quelque chose ensemble. Et ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est véritablement dangereux. C'est-à-dire qu'on a en effet un traité qui n'est plus, peut-être, qui est d'une certaine manière obsolète. On a le traité New Start qui doit également se jouer d'ici 2 ans. Mais on n'a pas de coopération transatlantique sur le sujet. Et ce qui se passe entre Washington et Moscou aujourd'hui pour définir ce qu'on appelle vaguement l'architecture de sécurité européenne se fait au-dessus de nous, sans avoir une on a aujourd'hui des Américains qui parfois refusent de partager avec leurs homologues européens, en dehors d'un discours de la représentante américaine à l'OTAN une fois de temps en temps, refusent de donner le contenu des discussions qui se font entre Américains et Russes. Et ça, c'est un sujet d'inquiétude. À Berlin, on a aujourd'hui des officiels allemands qui sont particulièrement inquiets d'être aveugles de ce qui se passe sur ce sujet-là. Non pas parce que ils ne font pas confiance aux Américains ou aux Russes, c'est que cette bilatéralisation entre États-Unis et Russie de la sécurité européenne n'est évidemment pas dans l'intérêt des Européens. Et ça, c'est un sujet d'angoisse que Donald Trump nourrit en partageant d'autant moins d'informations avec ses alliés.
Bruno Tertrais.
Oui, je suis un tout petit peu moins dramatisant peut-être parce que il y a eu quand même un consensus qui s'est fait entre l'Amérique et l'Europe et j'allais dire sans Donald Trump parce que ce sont des détails pour Donald Trump. Et par exemple, on a discuté de quoi faire en Europe devant l'extinction de ce fameux traité qui limitait les déploiements de missiles à portée européenne ou à portée japonaise qui sont déployés par les Russes. Bah, il y a eu quand même un accord entre Washington et les pays européens pour dire, bah, par exemple, on sait déjà ce qu'on ne fera pas. Nous ne déploierons pas de nouveaux missiles nucléaires en Europe. Et ça a été un consensus transatlantique. Mais ce consensus transatlantique, il existe aussi. Pourquoi ? Parce que le Pentagone et le Département d'État peuvent discuter de ça avec les Européens sans Donald Trump. Parce que c'est ça qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé de cacher des choses au président. Hein ? Non, il y a peut-être un point. On n'a fait que du négatif quasiment. Ben, peut-être qu'il aurait pu. Il y avait une situation dans laquelle il pouvait apporter une disruption intéressante et nouvelle. Quand il a commencé à parler de la Corée du Nord, en juillet 2017, de manière extrêmement brutale, les Coréens du Nord étaient totalement déstabilisés. Et ça aurait pu, s'il avait bien utilisé ce style, il aurait pu leur faire peur, ça aurait eu certaines vertus. Aujourd'hui, il ne leur fait plus du tout peur.
J'aime bien quand on finit sur une touche positive. I'm Canadian. C'est la fin de Culture Monde. Merci à Bruno Tertrais, à Martin Kounsès et à Gérard Haro d'avoir participé à cette émission consacrée à Donald Trump. Merci à toute l'équipe de Culture Monde. La série sur les disrupteurs se poursuit demain avec Boris Johnson. Tout de suite, vous retrouvez La Grande Table d'Olivia Gesbert. You're the helping hand.
put myself in your shoes. Try to feel how you feel. Already great. You're
helping.